With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Si nous donnons de la joie aux autres, cela nous rendra heureux. C'est le modus operandi de ce podcast.
Salut, c'est Louise Petrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 50e épisode du son d'après. Je suis Louise Petrouchka et comme toujours, je suis accompagnée du meilleur binôme de la planète, j'ai nommé Clément.
Salut.
Comment ça va?
Écoute, ça va très bien. Oui, je suis particulièrement en forme aujourd'hui.
Ouais, je te sens en pleine
ouais,
forme.
Ouais, je sais pas, bah, en fait, ce que je te disais hors antenne, mais c'est vrai que c'est quand même ce nouveau rythme où on est
toutes les deux semaines.
Toutes les deux semaines. Je sais que j'ai pu parler avec certains auditeurs que ça avait un peu, que ça avait un peu déstabilisé.
Ouais.
On perdait une sorte de rendez-vous qui était toutes les semaines. Mais moi, je me rends bien compte quand même que dans ma vie du quotidien, c'est quand même beaucoup plus
chill,
agréable en fait, ouais, de pouvoir prendre le temps d'écouter de la musique et d'arriver du coup avec des artistes vraiment où je suis chargé de bonnes...
T'es à donf.
Ouais, exactement. Donc
c'est
le cas des deux épisodes.
Ça tombe bien. Ça tombe bien puisque c'est toi qui commence cet épisode avec un artiste, il me semble, que tu aimes beaucoup.
Et bah pas du tout. En fait.
Non,
c'est,
ah
ça
bon
qui est, c'est ça qui est rigolo. Justement.
Je sais pas, dans ma tête, c'est... Ok, bon.
Et bah, tu vas voir, je vais dérouler. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que j'arrive là, maintenant, avec un morceau que je sais pas si j'aime en fait.
Ah bon ?
Mais c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment ça. Mais bon, avant de vous raconter exactement plus sur ce morceau, je vais vous dire rapidement comment je découvre l'artiste en question, en l'occurrence via les sorties de la semaine. Je vois un nom revenir sur plusieurs médias, de Geyser à Tsugi. Et le producteur s'appelle Fred Huguen. Ok, nom que je ne connais pas, mais un peu original, je me dis, tiens, vas-y, je vais jeter un œil, ce d'autant que je trouve que j'écoute pas assez d'électro, et du coup, vu que c'est recommandé par plusieurs médias, je me dis, vas-y, je vais avoir okay, la curiosité de, au moins d'aller poser une oreille dessus. Donc je me lance, le gars est anglais, originaire de Londres, multi-instrumentiste, il se trouve en fait que, bon... Le gars tape déjà presque ses 10 millions d'écoutes mensuelles sur Spotify.
D'accord.
Donc, il a été un petit protégé de Brian Eno, qu'il a produit pour Rita Ora, Stormzy et Sheeran.
Ah oui, d'accord.
Clairement, je prends le train en marche. Et là, je tombe vraiment sur de la musique où je sais pas quoi en penser, quoi. Ça me remplit de sentiments ultra contradictoires. Et du coup, ben, j'ai trouvé que c'était intéressant de ramener ça. Je vais pas faire de long discours du coup dans un premier temps. Je vous propose qu'on passe directement à l'écoute du morceau. Ça s'appelle Delilah Pull Me Out of This, extrait de son nouvel album qui s'appelle Actual Life 3. On écoute et puis on revient parler de tout ça. Pull me out of this. C'était Fred Huguen avec son morceau Delilah, Pull Me Out of This. Bon, j'ai déjà ma petite idée, et on va dire, en ramenant ce morceau-là, je savais déjà. Mais je vais te demander, qu'est-ce que tu en as pensé?
Bah écoute, j'aime pas du tout, voilà.
Ouais, c'est pas ta cam.
Non, j'aime pas. J'aime pas, mais en même temps, je comprends ce genre de ressenti pour certains morceaux, même si je l'ai pas sur celui-là. Moi, il y a un morceau que je kiffe, pareil, où c'est vraiment pas très bien, mais je l'aime quand même. Et donc, du coup, tu vois, c'est, je comprends ce genre de truc de... Musicalement, il y a mieux à faire, mais ça me parle et il y a un truc qui me fait kiffer, quoi.
Je l'ai pas analysé, dans le sens il y a mieux à faire, c'est-à-dire que je vais sortir du côté pédant, oui, de machin, il faut mieux faire ou quoi. Ce qui est sûr, c'est que, enfin vraiment quand j'ai écouté ça, j'étais hyper contrasté, c'est-à-dire que je pourrais trouver ça balourd en fait, genre Carnaval, tout mon Roland, tu vois, oui. Ce musique qui...
Peut-être pas à ce point, mais j'entends.
En tout cas, tu vois, j'entends des sonorités comme ça. Mais il y a peut-être un côté EDM, le côté, le sample de la voix. Et ça, je pense que je l'associe assez vite à ça. Mm-hmm. Et en même temps, je dois être totalement honnête, mais ça génère chez moi de l'euphorie. Mais vraiment de l'euphorie au sens littéral. C'est-à-dire que il se dégage une vraie bonne humeur débordante, c'est-à-dire que je souris vraiment comme un imbécile heureux quand j'écoute ce son en marchant dans la rue, quoi. Et je pense que tu peux en attester là, même comme ah ça, oui, à chaque écoute, content, oui. C'est vraiment, ça me fait ça. Et c'est très bizarre comme sentiment parce que, en fait, je pense que c'est tout simple, je trouve ça ultra efficace et j'ai l'impression de me faire manipuler, en fait. Vraiment comme si le morceau était plus fort que moi, tu vois, et mes petits préjugés. Et vraiment, du coup, ça m'emporte. Je parlais du coup ce côté un peu balourd EDM, mais pour l'avoir réécouté, je trouve qu'il y a quelque chose quand même d'un peu plus subtil que ce que moi j'ai en tête, mm-hmm. Que Tomorrowland. Voilà, dans les arrangements, je trouve qu'il y a quand même, tu sens quelque chose de bien fait. Et du coup, quand je suis allé regarder un petit peu qui étaient les producteurs, ils sont plusieurs sur le track. Fred Gibson, qui est du coup le vrai nom de... Enfin, qui est son nom,
Fred Again.
Voilà, de Fred Again. Il y a un duo qui s'appelle Parisi. Je vous avoue que j'ai pas totalement digué ce qu'il faisait, mm-hmm. mais j'ai vu un nom moi qui me parle énormément et c'est Fortet. En fait, okay. Voilà, Fortet coproduit, j'ai l'impression, plusieurs tracks sur l'album en question. Du coup, je pense comprendre un petit peu pourquoi ça me parle, c'est-à-dire que Fortet, il a quand même, moi c'est l'un des producteurs de musique électronique qui me touche le plus, qui sait faire beaucoup de choses. Ça va vraiment de la musique ambiante, vraiment, je trouve, pour chill, à des morceaux quand même beaucoup plus énervés. Et là, c'est peut-être que ça s'entend pas sur ce morceau en question, mais globalement, déjà, ce qui est important de dire, c'est que le morceau fonctionne un peu en binôme avec celui qui vient en fait ensuite dans le tracklisting, mm-hmm. qui s'appelle Camille Like I Do, et qui est une partie, du coup, c'est un vrai prolongement du morceau, mais qui devient beaucoup plus sombre. Du coup, on approche dans une électro qui est plus proche de Moderate, Mode Selector, Burial.
Ok.
Et en fait, je trouve que du coup, cet ensemble des deux est trop bien. Et du coup, effectivement, on passe plus sur de la house, mais il y a une partie un peu plus... Il y a une vraie partie beaucoup plus breakbeat,
okay.
UK Garage, qui me parle énormément. Et en fait, d'arriver à faire cet enchaînement-là, ça me parle bien. Mm-hmm. Et puis, globalement, de toute manière, dans le morceau qu'on a entendu, il y a un truc dans la rythmique qui...
Ah bah ça rentre dans la tête en tout cas.
Ah ouais, et vraiment, et qui accroche à fond. Et c'est du coup l'un des trucs qui m'a plu globalement sur cet album, c'est que t'as des titres tantôt euphoriques, comme celui que je vous ai passé, mm-hmm. et des morceaux aussi tantôt plus mélancoliques. On est quand même globalement sur une approche très DJ set en fait. Tu sais, quand t'écoutes ça, c'est 40 minutes, ça, vraiment ça s'écoute tout seul, mm-hmm. comme un bon DJ set. Et ça... Bah c'est pareil, c'est agréable. Pour vous décrire un petit peu le morceau, du coup là il sample la chanteuse Delilah Manto sur un morceau qui s'appelle Losky. Donc mm-hmm. tu vois ce petit sample de voix, bon, on peut aimer
le genre de sample que je déteste, ouais. À chaque fois qu'il y en a, en général je dis j'aime pas, donc
moi,
je suis pas étonné de pas aimer ça.
Je vais moi j'avoue que bah ça fait partie des trucs où je sens que je suis manipulé, mais je le trouve très efficace. Et c'est quelque chose qui fait assez régulièrement en fait dans ses morceaux, c'est-à-dire de choper un sample de voix comme ça et qui l'amène ensuite dans son univers. Il utilise un sample de Travis Scott que je reconnais à chaque fois, du coup ça, ouais. Ça me fait plaisir forcément. Mais par exemple sur l'un des gros bangers aussi de l'album qui s'appelle Daniel, il utilise la voix de la chanteuse de 070 Shake par exemple, tu vois.
Au Seven O'Shake,
merci. Et d'ailleurs, c'est un morceau que je te conseille d'écouter parce que c'est, mm-hmm. c'est parfait pour intégrer dans la playlist Sad at the Party.
Okay.
C'est vraiment ce type de morceau. Et d'ailleurs, bah, vous voyez, les titres les titres de morceaux,
oui.
sont en général les prénoms
des artistes.
Des artistes
parce que là, je vois Berwyn.
Exactement. Et bah, on retrouve sur l'album, il y a Mustapha, par exemple.
Mustapha, j'allais dire.
Voilà. Je sais que sur un précédent projet, on retrouve Kodak Black, on retrouve Baxter Dury, on retrouve Future. D'ailleurs, dans un morceau où il collabore avec la Swedish House Mafia. Donc, okay. Il est assez, assez éclectique. Finalement, je me suis bien laissé emporter dans son univers. Je vous conseille d'ailleurs, si vous avez vraiment envie de voir, parce que ça m'a éclaté. J'en mate pas beaucoup, mais je suis allé regarder ça, parce que j'ai vu dans plusieurs articles, il parlait de sa Boiler Room.
Oui.
Il a fait une Boiler Room en juillet 2022. Et franchement,
j'en ai entendu parler.
Il se dégage une énergie, mais vraiment, mais complètement folle. Les gens sont on fire et tu sens qu'il y a vraiment ce côté cocon. Et je lisais un article qui justement vantait cette Boiler Room en mode, tiens, ça redonne un petit peu l'essence un petit peu de ce qu'était la Boiler Room. C'est-à-dire que des gens qui sont là vraiment pour kiffer le son et s'ambiancer et pas juste faire les poseurs derrière le DJ, quoi. Et...
ouais, ça je trouve que c'est un peu facile parce que ça veut dire que tu n'as pas trop regardé les Boiler Room des dernières années, quoi. Parce qu'en vrai, il y en a plein des Boiler Room où les gens
où
ils
les
sont
gens
à donf.
Sont, bah, or, c'était, je pense que c'était je l'article que... était orienté pour ça, mais vraiment, c'est une, je pense que c'est une bonne porte d'entrée parce qu'il y a globalement, je pense à mon avis, la plupart de ses singles, quoi, de ses plus gros morceaux. Il avait joué du coup pas mal d'exclus parce que là l'album vient de sortir, mais du coup là. Bref, il avait fait en exclu des nouveaux morceaux de cet album là, et tu sens que les gens sont vraiment fous. Et d'ailleurs, un petit élément marrant aussi qui m'a fait matcher avec cet artiste, c'est que je me suis rendu compte que quelques jours avant ou après avoir découvert l'album, bah, en fait j'avais accroché sur l'un de ses plus gros tubes qui s'appelle Maria. We Lost Dancing, qui se trouve être le morceau de fin de la Palme d'Or de cette année, qui s'appelle Sans Filtre, de Ruben Östlund.
Oh, okay.
Et c'est du coup son tube, c'est vraiment le morceau qui clôture le film. Et je sais qu'en sortant du cinéma, j'avais vraiment cette mélodie entêtante, je la chantonnais alors je connaissais pas le morceau. Je me suis fait, ah bon, ok, c'est vraiment efficace. A priori, il était à Rock en Seine cette année, le 7 a fait parler. Okay. Là, je suis un peu dégoûté du coup, parce que franchement, je serais bien allé m'ambiancer. Il est complet là, à l'Élysée Montmartre en décembre. Je serais bien allé transpirer un bon coup, tu vois, pour m'ambiancer. Comme ça. Je trouvais marrant en tout cas de ramener ce type-là, parce que c'est contrasté.
Ouais, mais du coup, ça m'intrigue, parce que ce que tu me dis sur le reste, ça me donne envie d'aller écouter. Mais ce morceau, vraiment, me donne pas du tout envie, quoi.
Bah, j'ai vraiment hésité sur les morceaux, parce que j'aurais pu en ramener plusieurs, ce d'autant qu'il y a d'autres morceaux un peu. Que je trouve très efficace, mais ce sentiment que ça provoque,
ouais,
cette euphorie, je l'ai vraiment ressenti quand même majoritairement sur celui-là.
Okay.
Et du coup, je trouvais intéressant de ramener vraiment ce tiraillement que je ressens. C'est-à-dire, vraiment, ok, tu fais ce que tu veux de moi, c'est-à-dire que je vois tout ce qui pourrait m'agacer, et en même temps, mais vas-y Coco, j'y vais à 200% avec toi.
Ouais.
Et ça m'a encore plus convaincu maintenant, pour avoir écouté les autres projets, pour avoir regardé la Boiler Room. Ouais, vas-y, j'aime bien ce que dégage le gars,
ouais.
C'est plutôt cool. Donc du coup, je vais prolonger pour prolonger l'écoute. Je vous conseille évidemment d'aller à la Boiler Room, l'album du coup qui s'appelle Actual Life 3. Écoutez aussi le premier, Actual Life 1, que moi j'ai particulièrement bien aimé. Et puis parce qu'il fallait bien que je parle de rap, il a sorti en 2020 une mixtape qui s'appelle Gang, en featuring avec le rappeur anglais Eddie One, qui est vraiment un rappeur assez incontournable de la scène anglaise. Et on peut retrouver en plus en featuring dessus FK Twigs, Jamie XX et Samfa. C'est 8 morceaux. Ouais, et franchement, le projet est cool aussi. Donc, je suis assez... Il me surprend parce que tu vois qu'il est capable de faire quand même pas mal de choses.
Mmh.
Et même si je trouve que sur ce projet plus rap, tu commences déjà à reconnaître sa patte. Mais voilà, du coup, ça m'intéresse parce que je pense qu'on a aussi des refs relativement communes, tu vois, dans ce qu'il balance dans les samples et tout. Donc, j'ai pas regardé son âge exactement. Je pense qu'il est un peu plus... Il doit avoir dans 25 ans, quelque chose comme ça.
Ok.
Voilà. C'est tout pour Fred Again.
Très bien.
Je vous propose qu'on passe au son d'après.
Et pour le prochain morceau, je ramène un artiste qui m'accompagne depuis quelques années dans mes fins d'année. Voilà, vous connaissez mon sentiment d'amour pour l'automne-hiver. Je retourne souvent vers ces albums quand je sais pas quoi écouter et que j'ai besoin soit d'une musique pour me concentrer ou d'une musique pour me laisser un peu planer. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne l'ai même pas cité une seule fois ici. Je trouve ça fou.
Ah ouais.
Ouais, il s'appelle Leif Vollebæk, ou Vollebæk, je sais pas comment ça se prononce exactement. Il a 4 albums à son actif et c'est un musicien, chanteur et compositeur canadien. L'album dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il s'appelle Twin Solitude et il est sorti en 2017. Moi, à l'époque, je le découvre quand je bossais chez Mademoiselle. C'est ma collègue Dorothée, à qui je fais des bisous, qui m'envoie le morceau single phare de l'album qui s'appelle Elegy. Le clip est magnifique. Lui, il est en train de danser au coucher du soleil dans le sable, près de la mer et au milieu des dunes pleines d'herbes hautes. La production est assez dépouillée. Il y a une batterie, un piano, un peu crado, sa voix et quelques violons de temps en temps. T'as pas besoin de comprendre vraiment ce qu'il raconte pour sentir qu'il y a de l'âme dans ce qu'il chante. Le piano est assez grave, un peu crapouilleux. Ça finit de me convaincre. On dirait qu'il joue sur le vieux piano récupéré chez ses grands-parents. Et les gens qui commencent un peu à entrevoir le genre de folk qui me parle vont tout de suite comprendre pourquoi ça me plaît. Il y a, comme dans plein d'artistes folk, beaucoup de mélancolie, mais quelque chose de beaucoup moins froid que chez un certain Bon Hiver, par exemple. C'est un disque parfait pour la saison, pour les dimanches soirs, un peu sombres, où moi je m'imagine vivre seul dans une cabane au fin fond du Michigan avec un feu dans un poêle à bois et un plaid et un chat, tu vois. Mes grands rêves de solitude sont encapsulés dans tous les titres de ce disque de Leif Vollebæk. C'était bien entendu un cauchemar de faire un choix de morceaux, mais j'ai fini par m'arrêter sur un titre qui s'appelle Into the Ether. Je vous propose qu'on écoute. I want you, I just want you to be in a trance too. Maybe find something you can dance to and hold on to something you know is true and slip into the ether. Don't wanna tell anybody what to do. Ain't the one to give advice to you, the kind I know you won't listen to. I know, because I never listened either. C'était donc Into the Ether de Leif Vollebæk. Alors, moi, bien sûr, j'adore. Mais Clément, qu'est-ce qu'on en pense ?
Écoute, j'ai trouvé ça très beau. Merci pour la découverte parce que je ne connaissais pas. Non, j'aime beaucoup. En fait, il y a un côté, c'est marrant, je trouve qu'il y a plein de choses dedans. Il y a à la fois un côté très folk country.
Ouais.
Je trouve, qui me parle bien et qui me ramène à une BO que j'ai déjà parlé au film des frères Cohen, Inside Llewyn Davis. Tu vois, je trouve qu'il y a une ADN un peu comme ça. Et en même temps, lui, je trouve qu'il a une voix, il a une voix très pop, très, qui me fait penser à très britannique, je trouve. Et je pense qu'il y a ça aussi dans l'orchestration, le côté, les cordes notamment, qui doivent être des violons, qui me ramène aussi à un côté un peu britannique, tu vois, dans la campagne anglaise et tout. Mais j'aime beaucoup, ouais, je trouve que c'est ça, c'est assez complexe, je trouve les arrangements sont très beaux, non, ça me donne très envie d'écouter
la
suite.
Trop bien, très contente. Ouais, moi en fait, je trouve que ce qui démarque un peu Leif Vollebæk à première vue, en tout cas pour moi, c'est que j'ai l'impression, et peut-être complètement à tort, vous me direz en DM du son d'après si vous n'êtes pas d'accord, mais que le piano est assez peu utilisé ou sous-utilisé en folk. En tout cas, moi, dans mon imaginaire, quand je pense à la musique folk, j'ai le cliché tout de suite qui part sur groupe de mecs blancs barbus qui jouent de la guitare et du banjo, tu vois. C'est vraiment giga cliché, hein, pardon à tous les fans de ce genre musical, mais c'est un peu ma vision imaginaire collectif de la folk. Et je trouve que dans ce morceau, il y a, et dans plusieurs titres en fait de Leif Vollebæk, je trouve que le piano il ramène une autre dimension. C'est peut-être un truc un peu qui donne un côté un peu hors du commun, même si, bon, d'accord, on est d'accord que le piano, c'est pas l'instrument le plus inédit jamais entendu, mais je pense que vous voyez l'idée de ce que je veux dire. Et
bah, en tout cas, ça forge la personnalité de sa musique,
ouais,
tu veux
dire.
Ouais,
c'est ça, je trouve. Et je trouve que, d'ailleurs, c'est de loin ces morceaux au piano qui sont les plus parlants et les plus touchants. Dans son premier disque qui est sorti en 2010, Inland, il y a un ou deux titres avec du piano, quand les autres sont plus sur de la classique folk avec de la guitare, banjo, etc. Et je trouve que, clairement, c'est ceux-là qui se tiennent le plus à mes yeux, et je trouve qu'il se passe vraiment un truc, quoi. Et je me faisais la réflexion en me demandant pourquoi est-ce que j'aime tant ces morceaux-là. Et ça va paraître un peu tiré par les cheveux, mais j'ai l'impression qu'il y a une part de moi à qui ça rappelle un peu les morceaux Grey's Anatomy-like, comme j'aime les appeler, les The Fray, les Snow Patrol, les premiers albums de Sia que j'ai énormément écoutés. Et là même, en écoutant le morceau à l'instant, là, je me suis dit, putain, je sais à qui ça me fait penser. Ça me fait penser à Peter Cincotti.
Ah, mais...
Goodbye Philadelphia, je sais pas si
ouais,
tu te
souviens
de ce morceau.
Si, oui, je vois très bien... Ah oui, c'est rigolo. Je pensais pas nécessairement à lui, mais en vrai, je sais que dans mon adolescence, j'en ai entendu un paquet des chanteurs un peu comme ça, tu vois. Et ça, c'est le côté pop, tu vois. Je trouve que c'est vraiment, c'est la quintessence pour moi d'une pop un peu mélancolique.
Exactement. De Grey's Anatomy. On est d'accord.
Et de toute manière, ils ont quoi, 18 saisons, ils ont dû rincer tous les morceaux pour.
J'ai re-regardé un peu la liste, là, j'étais en mode, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées adolescente. Et en fait, je pense que la rondeur de ces accords-là en fond de Into the il y a un peu de mes amours adolescents qui ressortent, quoi. Alors, on est d'accord, ça n'a rien à voir vraiment, c'est pas produit pareil, c'est beaucoup moins pop. Enfin, genre là, vous entendez le grain de l'enregistrement, c'est vraiment enregistré à l'ancienne Leif Volbeck. Donc, je pense que ça s'entend au son du piano et de la batterie, etc. Mais il y a, c'est ça, c'est une espèce de rondeur de chaleur qu'on retrouve pas dans la plupart des morceaux déprimants de Grey's Anatomy et qui fait que c'est lui qui est que je préfère aujourd'hui, en tout cas. Après, voilà, à l'époque, on m'aurait demandé, j'aurais été en mode, mais Snow Patrol, la meilleure chose.
Snow Patrol, ça,
ouais.
C'est vrai que...
Snow Patrol, c'était...
J'ai déjà écouté plusieurs fois, franchement, depuis l'adolescence.
Ouais.
Et c'est pas mal, quand même. Franchement, je trouve que c'est pas...
C'est efficace.
Ouais, c'est ça, ouais.
C'était de la bonne pop déprimante au piano.
J'avais vraiment eu un ou deux albums que j'avais bien saigné, quoi.
Moi, j'étais fan de The Fray, je connaissais par cœur.
Ouais, ça, par contre,
How to Save a Life.
Ça, j'aurais vraiment... Oui, mais ça, c'est typiquement Grey's Anatomy.
Ah, bah oui.
Et ça, je pense que ça, j'aurais du mal à réécouter.
Ouais,
vraiment.
Je pense qu'aujourd'hui, ça serait compliqué. Ouais,
ouais, ouais, c'est... Ouais. Snow Patrol, il y a un côté plus dark, quand même.
Je sais pas, hein, franchement, je sais pas, j'ai pas réécouté.
Ouais,
j'avoue,
on va essayer. Mais... Peut-être qu'on va ramener ça dans les prochaines semaines, tu vois. Ah, franchement, moi, je suis sûr qu'à mon avis, ça peut me toucher encore.
Ok, bah écoute, à tester. Voilà, si jamais, pour prolonger l'écoute, je l'avais pas noté, mais allez écouter les albums de Snow Patrol. Mais en tout cas, non, en vérité, pour prolonger l'écoute, moi, je vous conseille d'aller écouter, bien sûr, cet album qui s'appelle Twin Solitude, qui est vraiment l'album avec lequel je découvre et qui m'a vraiment retourné le crâne, très clairement. Et j'avais checké aussi un peu sur YouTube, je regardais un peu ce qu'il avait fait et tout, je cherchais un peu des lives, des trucs un peu inédits, machin. Et en fait, je suis tombée sur une cover du morceau Read My Mind de The Killers, qui est un de leurs tubes. En vrai, comme ça, ça vous dit rien. Enfin, en tout cas, moi, comme ça me dit rien. Mais en fait, quand j'écoute Read My Mind, je suis en mode « Ah, mais oui, c'est ce morceau-là ». Et donc, si jamais vous voulez écouter la cover de Leif Volbeck, elle est dispo sur YouTube. Et je voudrais vous conseiller un autre de ses albums que j'ai beaucoup écouté, qui est le dernier sorti, qui est sorti en 2019. Il s'appelle New Ways. Et pareil, il y a beaucoup de piano un peu moog dedans. Il y a de très chouettes morceaux. Moi, si je dois vous en conseiller un, je dirais I'm Not Your Lover, que je trouve assez bien fait. Et en plus, on sent hyper bien son inspiration Bob Dylanienne. Parce que j'ai découvert en allant sur sa page artiste Spotify qu'il y a deux ou trois playlists dédiées entièrement à Bob Dylan. Sur sa page.
Ouais, je trouve que c'est les refs, tu vois, quand je parlais de la musique d'Inside Llewyn Davis, tu sens que c'est totalement ça. Hein,
mais du coup, sur ce morceau-là, I'm Not Your Lover, je trouve que vraiment il a un peu l'intonation et le phrasé de Bob Dylan. Je pensais un peu, regardez, moi aussi je suis capable de faire un peu comme Bob. Donc voilà, si ça vous intéresse, en plus d'aller vous plonger dans la discographie de Bob Dylan, vous pouvez aller sur la page artiste de Leif Volbeck, vous allez avoir de quoi faire, il y a trois playlists.
Ah ouais, vraiment gourmand, quoi.
Ouais. Voilà, donc c'était mon petit morceau cosy de fin d'année pour ce deuxième titre. On peut passer au son d'après.
Pour continuer cet épisode, je vais vous parler d'une artiste en l'occurrence, qui s'appelle Mickey Blanco, parce que c'est une artiste non-binaire, que j'ai découvert en 2012 avec son premier morceau qui s'appelle Wavy. C'est un rap avec une prod assez électronique. Yel a une voix assez grave et tranchante, un flow assez agressif et une esthétique queer totalement absente du rap à l'époque, à ma connaissance en tout cas. Et du coup, je me souviens très bien qu'à l'époque, je me prends totalement le son, l'artiste. Je crois que c'est même l'un des premiers artistes que j'ajoute à ma vieille playlist YouTube que j'ai toujours, qui doit s'appeler je sais plus son bon, j'ai oublié même le nom de la playlist, mais tu sais maintenant c'est le genre de playlist où il doit y avoir 1000 sons, mais c'était vraiment le tout début de ces playlists,
ouais,
et j'ai vraiment ce souvenir que ok, vas-y, j'ajoute ce son à cette playlist, c'est vraiment voilà, ça a plus de 10 ans. Du coup, je me prends ce morceau là. Et puis après, j'ai continué à écouter un peu de loin, parce qu'entre temps, il y a eu, je sais pas, il y a eu au moins 2 ou 3 projets que j'ai écoutés, mais sur lesquels j'accrochais pas pleinement, je vais être honnête. Et l'année dernière, il y a la sortie d'un nouvel album qui s'appelle Broken Heart and Beauty Sleep. Du coup, et ça date de 2021. Et je me souviens vraiment là que j'ai énormément apprécié l'album. Et j'ai totalement reconnecté avec Mickey Blanco. J'avais d'ailleurs déjà hésité à l'époque à la ramener dans le son d'après. Et du coup, là, j'étais impatient d'écouter la suite. Et elle a sorti un nouvel album il y a quelques semaines qui, je pense sincèrement, fait partie des meilleurs albums que j'ai entendus cette année.
Ok.
Vraiment, donc on passe d'un artiste, je sais pas trop ce que j'en pense, à vraiment l'un de mes meilleurs albums de l'année.
Ok.
Clairement. Ça a vraiment été une confirmation et je vais m'empresser du coup de vous passer un extrait de cet album qui s'appelle Stay Close to Music. Et le morceau s'appelle Steps en featuring avec les chanteurs Saul Williams et MNEK. MNEK. on écoute et on revient avec pour parler de Mickey Blanco. Sometimes I'm selfish and I know it. Prophesy my life, a priestess and a poet. Had the power in my heart but didn't show it. Daddy's approval, removal, I was manic but I'm growing. Thinking about my sister, thinking about them kids. Thinking about the life we want, the life we live. Light worker, way shower, yeah I try to be. My demons, demons swear to God won't get the best of me. I should have never dated white men. Fetishize a win, tokenism, light skin. It felt wrong, but it just might have been right when. Teaching and preparing me, supremacy is ripe when. Subtlety, my G, you least expect. Stay in your place, the dots connect. Too aggressive, it's passive aggressive, make your bed. Settle, settle, don't reach too high, eat your bread. Internalize my truth, speaking from my heart, what the brain can't do. Internalize my truth, speaking from my heart, what the brain can't do. Now I sleep at night, eat at night, breathe at night, even no reason, no, no reason at all. Not even that, but breathe at night, even no reason. Now I sleep at night, eat at night, breathe at night, even no reason, no, no reason at all. Not even that, but breathe at night, even no reason. C'était Mickey Blanco, Saul Williams et MNEK sur le morceau Steps.
Eh ben...
Qu'est-ce que t'en as pensé ?
Je m'apprêtais à prendre des notes en me disant « qu'est-ce que je vais dire sur ce morceau ?» Puis en fait, j'ai pas pris de notes, j'ai juste écouté. J'étais là « c'est vraiment bien
». Ouais, t'as trouvé ça...
Ouais, c'est super. Ça donne envie d'écouter tout l'album, du coup. C'est quoi ? C'est le morceau d'intro ou pas du tout ?
Eh ben, ça ressemble, mais en fait, c'est le deuxième morceau. Mais je suis d'accord, en fait, je le prends exactement comme ça. C'est-à-dire
on
que je le prends
vraiment,
plus
ouais.
comme un morceau d'intro, même si le premier morceau est très bien aussi. Mais je trouve que celui-là résonne effectivement comme une intro. Parce que tu vois, il y a... Bah, tout à l'heure, je vais en parler, mais il y a quelque chose de très poétique, en fait, je trouve, dans cet album. De très... Notamment, il y a plusieurs fois l'emploi, justement, un peu plus du spoken word que vraiment le rap ou le chant. Je sais vraiment pas... C'est pas le, je pense pas que c'est le meilleur album du tout de l'album.
Mais, meilleur morceau,
pardon, oui. C'est pas le meilleur morceau de l'album, mais je trouve que c'est une bonne introduction pour vous mettre un peu dans le mood, en fait. Justement, pour vous dire qu'il y a quelque chose de très musical, en fait.
Ouais, ça marche très bien. Je suis d'accord, ça m'a donné envie d'écouter le reste du disque. Enfin, vraiment fort, quoi. Là, je suis en mode, j'aimerais mettre... On va arrêter cet épisode maintenant, et je vais aller écouter l'album.
Eh ben, écoute, ça fait plaisir. Parce que, vraiment, ça a été difficile de choisir, parce que l'album est assez divers, finalement, musicalement, mais j'y reviendrai. Ce qui est intéressant, quand même, de savoir à propos de Mickey Blanco, c'est que c'est quand même une artiste qui a eu un parcours plutôt jonché d'épreuves. Je vous le fais rapidement, mais parce que c'est quand même, voilà, c'est bon à savoir. Elle a annoncé en 2015 qu'elle avait été diagnostiquée positive au VIH. Tu vois, ajouté à ça la lutte contre la drogue, l'alcoolisme, sans parler évidemment en fait, de ses débuts dans la musique où elle a dû faire face à l'homophobie, à la transphobie. C'est...
Au racisme, I guess.
Voilà, exactement, ça fait beaucoup. Du coup, c'était pas toujours évident d'être bien dans sa peau. moi, je sais que du coup, qui est toujours un petit peu écouté sa musique de loin, j'ai toujours été un peu contrasté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez violent, brutal, électronique, weirdo, qui pouvait m'accrocher par moments et puis totalement me perdre à d'autres. Je pense que c'est compréhensif. Il y a un certain mal-être, à mon avis, par moment, couplé d'une forte volonté d'affirmation. Tu vois, il y avait un peu les deux.
Ouais.
Tout ça dans la musique, donc ça fait beaucoup. Et du coup, moi, voilà, je pouvais accrocher et d'autres moins. Et là, en fait, ce qui m'a touché dans cet album, c'est que globalement, je trouve l'ensemble beaucoup plus doux et apaisé. Et d'ailleurs, elle le raconte dans les interviews, que je pense qu'il y a eu un gros travail de fait pour en arriver là. Et du coup, ouais, il y a même juste en parfaite empathie pour la personne, je me dis, ok, il y a quelque chose qui est... Il y a eu un chemin qui est traduit de manière, je trouve, vraiment magnifique dans un album de musique, parce que justement, musicalement, tu sens qu'il y a vraiment eu un gros travail de fait. C'est beaucoup plus musical, beaucoup plus organique qu'avant. Un résultat en musique magnifique. L'ambiance globale est du coup assez proche de ce que je vous ai fait écouter, je trouve. Même si t'as des envolées un peu plus, voilà, plus rythmées, plus pop même, à plein de moments. Il y a aussi beaucoup plus d'invités que d'habitude, qui elle dirige vraiment comme un chef d'orchestre. Et j'ai l'impression du coup d'entendre presque une vision de producteur plus que vraiment de Mickey Blanco, le la rappeuse, tu vois. Moi, je suis globalement plutôt assez touché par ce genre d'album quand c'est réussi. Je pense le premier qui me vient dans l'exemple, c'est Kanye West. Tu vois, ce truc qu'on a envie de beaucoup de gens. Et il y a une vision qui se dégage. Et ben, j'ai senti ce genre de proposition dans cet album-là.
Okay.
Et moi, ça me parle. Même en soi, parce que du coup, le rap est beaucoup moins présent, comme vous avez pu l'entendre. On va vers d'autres frontières musicales. Tu sens qu'il y a moins la volonté qu'avant de casser les codes à tout prix, qui peut, du coup, parfois être génial. Et d'autres fois, bon, ouais, ok, non, ça me parle
oui,
pas.
Oui, bah, faut tester, quoi. Quand on voit casser les codes, il y a forcément des moments où c'est moyen, quoi.
Du coup, même là, c'est un album que j'ai envie de décrire comme... alternatif avec des grands guillemets, mais je trouve que derrière tous ces morceaux différents et ces différentes ambiances, il y a quand même une vraie alchimie commune que je trouve particulièrement réussie. Et du coup, comme je le disais un petit peu au début, je trouve qu'il se dégage globalement quelque chose de très poétique. Moi, ça m'a fait penser à plein de moments aux premiers albums de Kid Cudi, tu sais, avec des textes qui pouvaient déclamer sur des prods assez aériennes comme ça. Moi, ça me touche beaucoup. Et puis, de manière générale, ces prods plus organique. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de plaisir, tout simplement, de faire de la musique et de la bonne musique. D'ailleurs, je trouve ça marrant, mais je lisais dans une des interviews, et elle disait « Là, je fais de la musique vraiment que je pourrais écouter pendant des heures.
»
Ce qui, certainement, du coup, n'était pas le cas avant. Tu vois, avant, il y avait, je pense, une autre volonté, une autre démarche. Là, je me fais plaisir. Et du coup, bah, je pense que je fais plaisir au public comme ça, quoi. Donc, je pense que c'est le plus bel album de Mickey Blanco, sans hésiter. Donc, ça va tranquillement m'emmener vers les recommandations. Je vous ai rapidement parlé de son parcours, mais j'ai pas pu faire parce que c'est long. Donc, si vous êtes intéressé par le personnage, je vous conseille d'aller lire un article sur redbull.com. Il retrace un peu son parcours et en dit un peu plus sur le modus operandi de création de l'album. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Je vous invite évidemment à aller écouter l'album Stay Close to Music, aussi du coup l'album juste avant qui s'appelle Broken Heart and Beauty Sleep. Et si vous avez envie, de par curiosité, d'aller voir quand même les débuts de Mickey Blanco, et moi, ce qui m'avait vraiment plu, je vous conseille deux morceaux, du coup le morceau Wavy et le morceau Ace Boogie Life. Voilà, c'est 2012, donc je pense qu'il y a un côté un peu daté, mais moi, je sais que j'ai vraiment kiffé les réécouter. Les projets sont intéressants à aller, voilà, par curiosité, à aller poser une oreille dessus.
Ouais.
Mais moi, en tout cas, je suis musicalement forcément plus touché par ces deux derniers albums.
Ok.
Voilà, ça sera tout pour Mickey Blanco. On passe au son d'après.
Pour ce dernier artiste, je voudrais d'abord vous rappeler que j'adore Rosalia et ses Tanganas.
C'était cas, oui.
Au cas où.
On l'aurait oublié.
Au cas où vous aviez oublié, voilà. Non, mais ça a du sens dans le pourquoi du comment. En fait, depuis quelques années, du coup, grâce à Rosalia et ses Tangana, j'ai découvert un peu les hybrides entre le flamenco traditionnel et ce que la génération actuelle en fait, avec des inspirations venues de différents genres musicaux. Et je trouve ça très fort, vous le savez. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux artistes qui ont uni leurs forces justement pour créer encore un nouvel hybride flamenco. Un peu moins facile d'accès, je pense, peut-être, peut-être que Rosalia et ses Tangana, mais ça se discute. En tout cas, moi, je trouve que c'est moins l'idée par une inspiration hip-hop et trap, et plus par un côté électronique. Donc peut-être c'est ça qui peut être moins facile. Je sais pas trop. On va voir. Vous allez me dire. En tout cas, la première artiste, c'est Rocío Márquez. J'espère que je ne prononce pas trop mal. C'est une chanteuse de flamenco espagnole. Elle a commencé à chanter à partir de ses 9 ans à peu près à la Peña Flamenca, qui est un peu le lieu de retrouvailles autour du flamenco dans sa ville à Huelva. J'espère que je prononce pas mal, qui est en Andalousie. Ouais, et ouais, elle a 6 albums à son actif, qu'elle a sorti entre 2012 et aujourd'hui. Et personnellement, je voudrais vous parler du dernier, qu'elle a fait en collaboration avec Bronchio à la production musicale. Et Bronchio, c'est Santiago Gonzalo, de son vrai nom. Lui, il est passé par plein de genres musicaux. D'abord le hardcore en tant que batteur, puis il était dans le punk. Et aujourd'hui, c'est un artiste et producteur assez plébiscité en Espagne. Il a notamment beaucoup travaillé dans la scène trap espagnole. Et aujourd'hui, il produit et mixe différents projets en collaboration avec des artistes. Et même, il réalise des clips. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il se rencontre avec Rocío Márquez en bossant sur le mix d'un de ses titres, d'un de ses albums, pardon. Et puis sur un remix d'un morceau qui s'appelle Empezaron los 40, qui est extrait de l'album de Rocío Márquez qui est sorti en 2020 qui s'appelle Visto en el Jueves. J'essaye de faire des
franchement, non, l'accent est là et tout, je trouve, en tout cas.
Bien sûr, tout sera dans les notes du podcast si jamais vous comprenez pas mon accent nul.
Nos auditeurs espagnols, je pense, sont tout ouïe là.
Ah ouais, bien sûr. Et donc, ils ont fait un album commun sorti en mai 2022 chez Universal. Le disque s'appelle Tercer Cielo, Troisième Ciel. Il reprend les formes classiques de différents types de chansons flamenco. Donc il y a des tangos, des rumbas, des garotines, des bulerías. Ça on connaît parce que Rosalía en a fait un morceau. Et en gros, ça mêle voilà, la tradition à la nouvelle génération. Je vous propose qu'on écoute un extrait pour que vous fassiez une idée par vous-même. On écoute Agua de Rocío Márquez et Bronchio. De Rocío Márquez et Bronchio. Comment vous dire que j'aime trop ce morceau, vraiment, juste là, le réécouter très fort dans mes oreilles, ça me met en joie. Voilà, je suis très contente de ramener ces deux artistes et cet album. Clément, puis-je avoir ton avis ?
Écoute, j'ai trouvé ça très intéressant parce que je crois que c'est tellement riche, tu vois, dans les sonorités, dans ce qui est ramené. Du coup, ça me renvoie. J'ai senti que pendant l'écoute, ça me renvoie à plein de choses. Tu sais, que j'ai l'impression de connaître, et du coup, je me dis, ah tiens, mais ça me fait penser à quoi.
Ouais.
Et
du coup, t'étais pas concentré dans le morceau.
C'est pas que j'étais pas concentré, mais du coup, je me prends beaucoup de choses et j'ai pas le temps de totalement savourer. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment fait tourner la machine. Notamment, il y a un son, et je suis content de l'avoir retrouvé, mais je sais pas si c'est un clavier, mais qui fait. En fait, non, qui pourrait sonner comme une sorte de trompette un peu désaccordée. Mm-hmm. Et je me suis dit, mais waouh, je sais que j'ai beaucoup entendu ce son-là sur un artiste et j'ai mis du temps. Et en fait, c'est l'ouverture, je crois, d'un des premiers albums de Métronomie.
Ok, ouais, voilà. C'est vraiment très précis.
Ouais, tu vois, c'est très précis, mais je me disais, et tu vois, je sais que c'est un son que j'ai beaucoup entendu.
Okay.
Et du coup, j'ai plus le titre de l'album, mais c'est C'est avec un monsieur avec une voiture, tout fait en dessin. Bref, et tu vois, du coup, ça m'a renvoyé à plein de choses, mais c'est très bien. Je trouve ça. J'ai qu'une seule envie, c'est de réécouter, ouais. C'est d'aller et de voir aussi les autres morceaux, parce que d'un point de vue musical, c'est très. Ouais, encore une fois, je trouve ça très intéressant. Mmh. Il y a un gros taf, et en plus, cette petite vibe hispanique en ce moment me parle bien.
Oui, oui.
Donc, curiosité double, plus deux.
Ouais, ouais. Bah, écoute, moi, je suis très contente de ramener cet album, parce que je l'ai vraiment découvert il y a pas longtemps du tout, genre la semaine dernière, je pense, un truc dans le genre. Donc, j'ai pas encore eu vraiment le temps de m'imprégner non plus à 100% du disque.
Pas le temps de le digérer, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais.
Il est très dense, et il y a plein de choses qui se passent dedans. Je trouve que sur ce morceau, alors pourquoi je l'ai ramené lui plus qu'un autre, simplement parce qu'il me parle un peu plus, voilà, je sais pas, c'est un des morceaux où, t'sais, genre, où je me suis dit, tiens, ça, lui je le kiffe, je le marque pour plus tard, quoi. Et je trouve qu'en effet, en termes d'arrangement, c'est très cool, il se passe plein de choses, il y a les claquements de mains un peu typiques flamenco, la manière dont Bronchio utilise les samples de la voix de Licio Marquez pour en ponctuer certains passages dans le morceau, tu vois, tu captes un peu que c'est ça qui a été travaillé. Il y a les synthés un peu distordus que moi, je trouve très cool. Bref, il y a, en vrai, en termes d'arrangement, c'est tellement complet que je pense qu'à chaque réécoute, tu dois capter un nouveau truc, tu vois.
Ouais, là, c'est si ça, vraiment... bah oui, parce que vraiment, il y en a plein. Dans
ouais,
tous
c'est
les
ça. Sens. Si vraiment t'es concentré, je pense que, bon, vraiment, tu t'en as pour un certain temps de capter un peu tous les sons, tous les arrangements. Pour vous donner une idée, en tout cas, elle, ça la sort vraiment de ses habitudes musicales, même si, a priori, elle est très ouverte, elle aime collaborer avec des artistes d'autres genres musicaux. Je sais que j'ai écouté un peu des trucs où c'était un peu plus rock, un peu plus avec des guitares électriques et tout. C'est quand même vraiment le premier album qui sort de ses habituelles voix-guitare qu'elle sort d'habitude. Donc je trouve que c'est un beau pas pour elle, parce que c'est vraiment une chanteuse flamenco qui est assez reconnue pour sa voix et ouais. Tout. Enfin, tu vois, genre elle a fait des festivals, un peu le festival de Arles et tout, qui sont des trucs un peu, tu vois, genre elle a gagné un truc de jazz, enfin de voix de jazz, etc. Donc
oui, on va dire elle était peut-être plus dans un schéma ou dans un chemin plus,
ouais, c'est ça.
Plus classique.
Ouais.
Bah, et puis je vois, ouais, quoi, premier album en 2012, donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'elle est là, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc elle a quelque chose comme la quarantaine, je pense, peut-être un peu moins. Et je crois que Bronchio, il a à peu près notre âge. Et du coup, en fait, ouais, je trouve que l'union des deux univers est vraiment très très intéressante. Et je trouve que quand même cet album est assez accessible. Vous allez voir, c'est un peu qui tout double par moment. Il y a des morceaux assez faciles, comme un des singles qui s'appelle Demi, qui est une rumba. J'ai pas précisé, mais en gros, quasiment tous les morceaux ont le nom du titre, plus derrière écrit qu'est-ce que c'est comme genre de flamenco. Donc, va y avoir donc, les bolillas, machin, rumba. Et donc, par exemple, Agua, c'est tangos. Donc, c'est un tango. Donc, voilà. Donc, il y a des morceaux assez faciles d'accès. Donc, il y a Demi, qui est une rumba, en featuring avec une artiste dont le nom est un peu imprononçable. Ça s'écrit 4-1-V-1-L. Je vous mettrai dans les notes, car ouais. Vraiment, je me suis dit, ça se trouve, ça veut dire A-I-V-I-L, mais je sais pas comment le prononcer, bref. Donc, ça, c'est un des singles qui est un peu plus pop, facile d'écoute. Dans la construction, en tout cas, c'est plus pop, tu vois. Il y a un joli refrain, ouais. Les couplets, c'est du coup la personne en featuring qui les fait un peu plus de manière rappée slash spoken word. Mm-hmm. Spoken word et pas word. Et donc, il y a aussi des morceaux vraiment plus étonnants, comme El Corte Más Limpio, qui est musicalement une grosse techno. Vraiment, genre,
ah ouais.
C'est trop bizarre, t'es en mode, what the fuck? Qu'est-ce que ça fout là, tu vois? Et ça part en chant flamenco complètement distordu à la fin, enfin, c'est un morceau de 7 minutes et tout, t'es en mode, bon, ils ont quand même été assez larges en termes d'exploration, tu vois. Donc, moi, je trouve que, de manière générale, l'album est facile à écouter. Après, il y a quelques morceaux surprenants, quoi. Si je peux vous en citer deux ou trois, je dirais, dans mes préférés, il y a El Mengue y la Zarabanda. Bien sûr, ça sera dans les notes. Un peu dans le même esprit que Agua. Et Mercantia, qui a un sample un peu angoissant, que j'aime beaucoup, qui me rappelle un peu les films de Caro et Jeunet. Notamment La Cité des Enfants Perdus, qui est un film que j'ai beaucoup regardé quand j'étais petite.
Okay.
Dans La Cité des Enfants Perdus, en termes de musique, il y a vraiment un truc un peu angoissant, un peu bizarre et tout. Et je trouve que dans Mercantia, il y a un peu ce truc-là. J'en profite pour vous dire d'aller regarder ce film, parce que dans mes souvenirs, c'était super. Après, c'est un peu chelou, mais j'avais adoré quand j'étais vraiment... je pense petite, quoi. J'avais 12-13 ans, quoi, et je l'ai beaucoup regardé parce que j'avais le DVD.
T'as un
à la
petit
maison.
Côté dark, hein, du coup, parce que je vois, dans mon souvenir, c'est assez.
C'est ah
assez
ouais, c'est noir. Vraiment.
C'est
dark.
Assez noir, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. C'est comme l'univers de Caro et Jeunet.
Ouais, c'est bizarre. Mais c'est pour ça, donc je trouve que ce morceau, il y a un peu de ça dedans. Donc, okay. Donc voilà.
Curieux.
Voilà, c'était assez rapide. Moi, je voulais juste vous parler de ces deux artistes. Moi, je les ai découverts là il y a pas très longtemps grâce à une programmation de la programmation des Transmusicales où ils sont programmés. Et donc, du coup, je me suis dit tiens, intéressant. Et vous allez voir que on en reparlera dans le prochain épisode. Mais il y a une autre artiste que je vous ramène que j'ai découvert grâce à la prog des Trans, toujours très intéressante. Pour prolonger l'écoute, bien sûr. Vous pouvez aller écouter Tercer Cielo. Je vous conseille aussi du coup Bronchio, il a sorti un album, enfin il a coproduit un album justement pour 4-1-V-1-L. L'album s'appelle Sea lo que sea et je trouve ça très chouette. Je vous conseille d'aller jeter une oreille si ça vous dit, c'est un peu plus actuel. Enfin, actuel, non. C'est un peu moins traditionnel, puisqu'il n'y a pas spécialement de flamenco dedans. Mm-hmm. Et bien sûr, je vous conseille d'aller écouter le remix que Bronchio a fait du morceau Empezaron los 40 de Richo Marquez, qui est, il me semble, une reprise d'un morceau de flamenco ou de musique populaire espagnole. Ça, je suis moyennement sûre. Donc, voilà, nous arrivons à la fin de ce morceau, et donc à la fin de cet épisode.
Tout à fait, donc c'est le moment des petites recommandations d'usure. Vous savez que si vous voulez nous suivre, vous pouvez le faire sur... Vous pouvez déjà vous abonner à ce flux de podcast, quelle que soit votre application. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Twitter. Tous les noms d'artistes que vous venez d'entendre, qui ne sont pas forcément toujours très faciles, il y a un peu d'espagnol, il y a de l'anglais, enfin bref, on n'a pas non plus les meilleurs accents du monde, donc vous pouvez retrouver tout ça dans les notes du podcast, tout est bien orthographié et dans l'ordre. Les 4 morceaux que vous venez d'entendre, si vous ont plu, bah de toute manière, quoi qu'il arrive, vous les retrouvez dans la playlist du son d'après, pareil, dispo sur YouTube, Spotify, Deezer et Apple.
Oui.
Et puis... En plus, du coup, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez même mettre des petites étoiles maintenant sur Apple et Spotify, oui. Notamment, mettre un petit commentaire aussi, et sinon même juste en parler voilà, à votre voisin, à votre ami, à des gens qui écoutent de la musique, tout le monde écoute de la musique en soi. Oui. Donc voilà, si ça vous plaît, parlez-en autour, c'est ce qui nous aide, vous le savez, toujours le plus, à faire parler du podcast.
Super.
Bah voilà, ouais, efficace.
Oui, c'est bravo ça.
et bah voilà, et bah c'était la fin de ce 50e épisode. Et Louise,
50e?
Qu'est-ce qu'on se dit
57e,
pardon. Et Louise, qu'est-ce qu'on se dit
à dans deux semaines.